on va passer la parole à François Germinet, qui est président de l'Université de Cergy-Pontoise et qui a été missionné par la ministre en mars dernier pour établir un rapport sur le développement de la formation tout au long de la vie dans le supérieur, rapport qui a été rendu début novembre.
Bonjour à toutes et à tous. Anne a complètement raison, le vrai sujet, c'est les interactions que vous allez avoir les uns et les autres. Et je vais vous infliger, pas un discours, mais au moins quelques éléments de réflexion et un retour d'expérience de ce qui s'est passé autour du rapport et de l'expérience que l'équipe a vécue, et puis des conclusions du rapport, évidemment, mais à nouveau, le plus important, c'est les échanges que vous aurez à partir de là. En préambule, c'est vous les professionnels de la formation continue, c'est vous les professionnels de l'éducation au sens large. Moi, je suis qu'un acteur politique en tant que président d'université, mais aussi du coup avec une stratégie à mettre en œuvre dans un établissement. Donc, j'ai pas forcément le même regard et la même vision sur les possibles et la frontière entre les possibles et les pas possibles. Je peux parfois, en tant que président d'université, avoir un discours ou une appréciation décalée par rapport à vous, mais c'est justement la confrontation entre la réalité du terrain, l'expérience du terrain que vous représentez, et puis la vision d'un président d'université qui a une stratégie à mettre en place pour son université. C'est de cette confrontation que de ce type d'échanges que peut naître des évolutions fructueuses. On a monté un petit groupe à la fois de professionnels du sujet et de moins professionnels du sujet. Il y avait notamment Christine Skimankiewicz qui avait œuvré à un rapport de l'IGVNR qui était sorti en 2014, avec énormément finalement de remarques, de suggestions, de commentaires qui sont complètement d'actualité. Et de ce point de vue-là, on n'a pas révolutionné les choses, on a simplement essayé parfois d'aller un tout petit peu plus loin ou d'interroger un certain nombre de sujets. Et ce que j'ai trouvé finalement intéressant dans l'affaire, c'est que malgré le fait qu'il y ait des professionnels du sujet, soit des historiques comme Christian Forestier qui connaissait ça par cœur, Christine Timankiewicz qui avait arpenté toute la France pour faire le rapport Alain Gonzalez de la FCU ou encore Anne Aubert et quelques autres collègues, tous ont finalement redécouvert certains aspects où ils m'ont dit, je pense qu'ils ne m'ont pas menti, qu'ils avaient pris un certain plaisir et qu'ils avaient découvert des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas forcément. Donc rien que pour ça, lorsque les personnes qui sont au contact régulier avec vous apprennent des choses ou s'ouvrent à de nouvelles réflexions, c'est peut-être déjà un enrichissement. Alors, la formation continue, on l'a évidemment recadrée dans un cadre plus large qui est la formation tout au long de la vie. Ça ne vous étonnera pas, mais quand même, c'est ça le sujet. La commande, c'était la formation continue, et la commande, c'est-à-dire l'exercice, la commande du ministère, c'était la formation continue et les ressources des établissements. La réponse, c'est le monde évolue et c'est la formation tout au long de la vie qui est la réponse. Parce que lorsque on sort avec ses compétences et son diplôme à 20 ans, à 22 ans, à 25 ans ou à 30 ans, eh bien, on n'est pas armé pour les 30 années ou les 40 années qui suivent. Le monde évolue, les compétences évoluent, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent et donc ça doit constamment s'actualiser. L'exemple tarte à la crème, mais qui est évidemment complètement pertinent, c'est l'informaticien d'il y a 30 ans et puis l'informaticien d'aujourd'hui. Derrière ça, il y a également des nouvelles générations. Anne parlait du numérique. Le numérique n'est pas une fin en soi, c'est un outil, mais c'est aussi un facteur d'évolution extrêmement important auprès des nouvelles générations. Ils ne pensent pas complètement le monde exactement comme nous l'avons vécu lorsque nous avons fait nos études, sans tous les ordinateurs que je vois et sans ces choses-là que tout le monde check toutes les 5 minutes. J'avais une remarque personnelle à nouveau qui n'a absolument aucun intérêt. Ce week-end, j'étais avec un gamin de 12 ans, toutes les 5 minutes, il avait son téléphone et il regardait, je ne sais pas quoi. Nous, on n'a pas vécu ça. Nous, on n'est pas cette génération-là. Eux, ils sont cette génération, et la manière dont l'éducation va être complètement transformée par cette porosité constante avec des informations qui arrivent en flux continu, ça change complètement. Donc, il y a des nouvelles générations, et ce qu'on a entendu de la part de certains DRH, c'est que ces nouvelles générations sont dans des codes, sont dans des normes, mais cherchent à en sortir, ou en tout cas sont plus attentifs à une individualisation des parcours que, à nouveau, ce que nous, on pouvait peut-être penser ou vivre à l'époque. Et la question de savoir, mais qu'est-ce que ça va être ma vie, finalement, quand on a à nouveau sur son téléphone des images exceptionnelles ou tout ce qui se passe partout dans le monde ou tous les copains dans tous les sens, eh bien la question de qu'est-ce que ça va être ma vie, qu'est-ce que ça va être ma carrière est importante. Et je conjugue à dessein la question de qu'est-ce que va être ma vie, de qu'est-ce que va être ma carrière à qu'est-ce que va être ma vie. Parce que, à nouveau, nous, on a encore vécu, on est certainement encore une génération où il y avait la carrière, et puis il y avait la famille, la vie personnelle. Et là, ce que la carrière dit de la vie et ce que la vie dit de la carrière, comment l'un influe sur l'autre, à nouveau, ça commence à être très présent dans les nouvelles générations. Et vous voyez que, avec la nouvelle loi sur la réforme professionnelle, l'apparition du CPF, il y a une individualisation des parcours, et ça devient un élément de construction de la formation tout au long de la vie, et ça devient un élément de co-construction avec les entreprises. Et c'est un élément qui est clair dans la réforme, on le voit, mais ce n'est pas juste un artefact de réforme, c'est un mouvement de fond. Et ça vient à la fois du fait que le monde évolue fortement et que beaucoup de choses doivent être réactualisées, et en même temps que les générations ne sont pas les mêmes. En tout cas, c'était un retour que les DRH nous avaient fait. Donc, et à partir du moment où on pense formation tout au long de la vie, il y a évidemment une porosité entre la formation initiale et la formation continue à penser. Vous la faites déjà, certainement, mais on ne peut pas dire que dans notre pays, elle soit complètement pensée, en tout cas de manière aboutie, et suffisamment aboutie pour être complètement évidente à tout le monde. Il y a clairement la formation initiale et puis la formation après le diplôme, après qu'on a eu des expériences en entreprise. Or, disons, il n'y a pas le lieu où les savoirs évoluent, les lieux où ils sont remis en cause et les lieux où l'expertise s'actualise, c'est justement l'université, les écoles, l'enseignement supérieur. En tout cas pour un certain niveau de compétences, les ingénieurs, les cadres, les hauts cadres, etc. Donc, à un certain niveau d'expertise, ce qui correspond à ce qui est au-delà du bac, eh bien, les compétences, les expertises et le lieu où ces expertises se renouvellent, c'est forcément les écoles, les universités. Et à partir de là, on peut se dire, finalement, si l'expertise, elle est là, il n'y a pas de raison pour qu'elle soit pertinente avant le diplôme et que cette expertise ne soit plus pertinente après le diplôme. Donc ici, il y a peut-être un frein que nous avons nous-mêmes dans notre présentation du système éducatif avec, d'un côté, l'enseignement supérieur et de l'autre côté, les organismes de formation continue, et encore, d'un côté, la formation initiale et de l'autre côté, la formation tout au long de la vie, ou en tout cas après le diplôme. Donc, j'essaye de suivre en même temps avec les tweets qui ont été préparés, pour que ça, voilà, c'est des conférences modernes. Voilà. Donc, tout ça est à inclure dans des nouveaux schémas de réflexion et en lien avec l'évolution de notre société. Et c'est justement ce que je disais, ce que nous demandent les nouvelles générations. C'est le projet de la nouvelle loi. Et on en vient maintenant à deux items qui étaient très présents dans le rapport, c'est-à-dire les freins externes et les freins internes. Alors, l'interne et l'externe, désolé, c'est un peu auto-centré, c'est par rapport aux établissements d'enseignement supérieur, les universités, les écoles. Donc, externe à nous, les freins, eh bien, vous les avez vécus de près, depuis à peu près un an, c'est-à-dire c'est la mise en œuvre de la réforme sur la loi professionnelle, la mise en œuvre du CPF avec les fameuses listes nationales d'éligibilité au CPF qui vous ont parfois créé un certain nombre de nœuds au cerveau et de nuits blanches. Donc il y a, avec, disons, des vraies alertes sur les formations qui rentrent ou n'arrivent pas à rentrer dans ces listes, des alertes aussi sur le dévoiement du CPF par rapport à son objectif initial, donc un risque de dévoiement pour lequel chacun doit être attentif, c'est-à-dire que le CPF ne reste pas simplement une brique d'un parcours de formation continue, mais qu'il devienne un label des étoiles qu'on va mettre sur des formations qui vont être étiquetées CPF pour d'autres formations, quand bien même le CPF n'est pas requis. On l'a vu pour certains OPCA, par exemple, qui, pour financer des formations sans aucun lien avec le CPF, au sens où les crédits CPF ne sont pas convoqués, eh bien, le label CPF pour la formation était mis en avant, voire demandé, ce qui est un risque de dévoiement du CPF. Et ça peut avoir ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est qu'on a du coup des espèces de labels avec des formations et que tout le monde comprend. Le risque de dévoiement, c'est que ça devienne tellement important d'être là parce que c'est au cœur du système qu'il va y avoir des pressions politiques énormes au niveau des régions, au niveau des établissements, etc., pour que tout y soit. Bon, donc là, il y avait un sujet. L'autre frein qui est externe, qui est à la fois externe et interne, c'est celui de l'image des universités et des écoles, disons, et la méconnaissance dans les programmes de formation continue et chez les salariés, dans les entreprises, de ce qui se fait dans l'enseignement supérieur. C'est très franco-français. Dans le monde entier, l'université, les ensembles universitaires, parce qu'aujourd'hui, les universités et écoles sont dans des ensembles universitaires, c'est ça qui est reconnu, c'est ça le lieu de l'expertise et du transfert des savoirs. En France, c'est pas tout à fait comme ça. Les choses sont bien plus cloisonnées que ça. Et, disons, c'est un frein aujourd'hui dans les relations entreprises, même si on fait beaucoup d'efforts et même si, franchement, très franchement, les milieux se rapprochent très fortement. Il y a énormément aujourd'hui de relations entre les universités, les branches professionnelles, les pôles de compétitivité, les entreprises. Énormément. Bien plus qu'il y a 15 ans. Si vous étiez déjà dans le milieu il y a 15 ans, rappelez-vous, entre il y a 15 ans et aujourd'hui, il y a des relations avec les entreprises, entre les universités, les écoles et les entreprises, qui sont extrêmement abondants et extrêmement féconds. Mais disons, ça reste aujourd'hui encore un frein, et si les écoles se sont mises à travailler la question de la marque, les universités, moins. Et alors, si peut-être que les universités voudront parler d'image de marque, qui est un tout petit peu pudique, mais on n'est pas obligé d'être toujours pudique et on peut tout à fait assumer le fait que les universités s'appuient sur des marques, comme les écoles s'appuient sur des marques, pour faire valoir leur expertise et leur savoir-faire. Alors après, on a étudié les freins internes aux établissements. Et il y en a quand même un certain nombre. Mais ils ne sont pas rédhibitoires, loin de là. Ils ne sont pas rédhibitoires. Il y a des freins sur les questions économiques, la question des moyens. Il y a des freins sur les aspects pédagogiques. Mais à nouveau, tout cela, pour peu qu'on y travaille un peu, me paraît facilement surmontable. En tout cas, c'est le point de vue d'un président d'université. Du point de vue économique et des moyens, le sujet, c'est évidemment la question du coût complet et c'est bien beau de faire rentrer des recettes, il faut encore savoir combien ça coûte. Et quand on fonctionne avec une dotation de l'État, on peut toujours développer quelques formations à la marge en monopolisant, sans trop le dire, la dotation État. Mais on a quand même l'UNEF dans les conseils d'administration, c'est du vécu, qui viennent nous dire qu'on dévoie l'argent public prévu pour les licences et les masters à d'autres fins. Donc il y a quand même un sujet. En tout cas, je reprends ce que je disais, c'est bien d'avoir des recettes, c'est mieux de savoir à la base combien ça coûte. Et combien ça coûte, c'est pas au coût marginal, c'est au vrai coût. Il y a deux raisons pour ça. D'une part, c'est bien de savoir, lorsqu'on met une activité en place, combien elle coûte, surtout si on veut qu'elle soit, surtout si on vise un changement d'échelle, c'est-à-dire que ça soit pas marginal mais majeur, parce que ce qui est marginal, on va pouvoir le gérer à la marge, ce qui est majeur, ça peut déstabiliser l'établissement et notamment créer des déficits derrière. Donc, la question de savoir le coût en interne pour gérer la boutique en interne. Et il y a une autre raison, c'est qu'il y a des organismes privés, 100% privés, qui ont leur comptabilité et qui peuvent nous accuser de concurrence déloyale pour peu qu'on en vienne à empiéter un peu trop sur leur plate-bande. Nouveau, tant qu'on est à la marge et qu'on ne fait pas trop de bruit, ça ne pose pas de problème. Si la commande, c'est le changement d'échelle, si le sujet, c'est le changement d'échelle et c'était la commande du ministère, eh bien là, on a un double sujet, interne par rapport à la maîtrise de notre budget, externe par rapport à l'exigence de non-concurrence déloyale par rapport à d'autres structures qui, elles, n'ont pas de dotation d'État. Donc le coût complet, ce n'est pas uniquement les heures complémentaires des profs. C'est le vrai salaire. Et pour un enseignant, c'est le salaire de l'enseignant. Pour l'enseignant-chercheur, ce que je pose sur la table et qui n'est pas évident à avaler, c'est que pour l'enseignant-chercheur, le vrai salaire, c'est le salaire de l'enseignant-chercheur. Et pas la moitié. Pas la partie uniquement enseignement. On peut se dire, mais pourquoi diable, de toute façon, il fait la recherche, c'est la recherche, il fait l'enseignement, c'est l'enseignement. Non. Ce qui fait sa valeur, ce qui fait la valeur différenciante des universités et des écoles, ce sont les enseignants-chercheurs. Et s'ils ont cette valeur différenciante, c'est parce qu'ils croisent l'évolution des savoirs, c'est la recherche, avec la transmission des savoirs, c'est l'enseignement. Et donc, lorsque on va pouvoir présenter à une entreprise, à un plan de formation d'une entreprise, une équipe pédagogique pertinente, à partir du moment où il y a des enseignants-chercheurs, s'ils sont pertinents, c'est parce qu'ils ont 10 ans, 20 ans, 30 ans de recherche derrière eux, sur le sujet. Bien. Donc c'est le, vous voyez, le vrai coût, c'est le vrai coût. Les salles, on va se dire, mais monsieur le président, la salle de 18 à 20 heures, de toute façon, elle n'est pas occupée. Donc, elle est payée par la dotation État, donc ce n'est pas la peine de la compter. Si on la compte, on fait une comptabilité analytique, on fait le coût complet, et c'est ça qu'on présente ensuite à l'entreprise comme le coût de la formation qu'elle va nous commander. Le back-office, les services centraux de l'université, ben, il faut chauffer, il faut DRH pour payer les vacataires, les profs, etc. Il faut de l'agence comptable pour envoyer les recettes, relancer lorsque on n'est pas payé, etc. Tout ça demande beaucoup de travail. À nouveau, tant que c'est marginal, si vous faites 100 000 euros de formation continue, vos équipes en place vont l'absorber, vous n'allez rien voir du tout. Si ça devient 10 ou 15 ou 20 millions, ça nécessite plusieurs ETP supplémentaires dans tous vos services centraux. Ça doit être compté. Donc c'est l'ensemble de ces coûts-là qui représentent le coût complet. Et je pense qu'il y a, en tout cas de ce que j'ai vu, peu, voire pas, en tout cas peu, une main, c'est à mon avis déjà trop pour compter le nombre d'établissements qui sont au vrai coût complet et qui facturent le vrai coût complet. Donc ici, vous voyez, avant de se dire Oulala, si on fait des bénéfices, la loi nous interdit de l'utiliser comme on veut. Avant de faire des bénéfices, commençons déjà par faire rentrer le vrai coût complet. Et si on ferait rentrer le vrai coût complet, il y a une part environnement dedans qui vient dans le budget de l'université et qui est redistribuable très facilement. Votre agent comptable et votre DGS vous font ça en deux temps, trois mouvements. Développer, à partir du moment où vous avez un modèle économique qui tient la route et que vous voulez faire un développement au-delà qu'à la marge, il y a un dernier point qui est clair, c'est que vous ne pourrez pas le faire avec les personnes en place. Le nombre d'enseignants et d'enseignants-chercheurs que l'on a dans nos établissements n'est pas suffisant. Ils sont tous avec des heures complémentaires au-dessus de la tête. Ils vont vous dire, j'ai ma mission de formation initiale, je suis fonctionnaire de l'État, c'est ça ma première mission, je veux bien te faire un peu de formation continue parce que c'est sympa et c'est agréable, etc. Et puis ça me fait un peu d'argent en plus, mais je ne peux pas en faire massivement plus. C'est pas possible. Donc, il faut recruter des personnes en plus, forcément. Un changement à la marge se fait avec les gens en place, mais ils commencent à en avoir un peu, ils ont le service très plein. Un changement d'échelle nécessite des recrutements supplémentaires d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, d'ingénieurs, d'administratifs. Et là, là, ça signifie clairement que les ressources propres issues de la formation continue doivent pouvoir payer ces nouvelles recrues. Ces nouvelles recrues peuvent être contractuelles ou titulaires de la fonction publique. Et là, normalement, ça se crispe un peu et on se dit, oulala, des fonctionnaires financés sur ressources propres, on n'aime pas trop. Pourtant, un, c'est possible, deux, il faudra bien le faire. Mais trois, il faut faire attention et il faut bien mesurer le pourcentage des recettes, un pourcentage de recettes suffisamment pérennes qui est dans le socle de recettes de l'établissement qu'on monopoliserait pour ce type de nouveau recrutement. En tout cas, il faut faire extrêmement attention. Deuxième frein interne, la question de la pédagogie. Donc là, c'est clair, la question de la pédagogie doit se travailler avec les publics visés. On ne fait pas la même pédagogie en fonction des publics. Donc, par exemple, on répond à un appel d'un groupe ou d'une entreprise pour un plan de formation continue, il faut être en mesure d'adapter son offre. Il faut comprendre quelle est la temporalité qui est pertinente. Et là, il n'y a pas de règle. Il y a des DRH qui sont venus me dire, en fait, deux heures par semaine pendant trois mois avec un peu d'hybride et puis de temps en temps un présentiel, ça nous va. Il y en a d'autres qui sont venus dire, nous, on préfère un jeudi, vendredi, samedi, deux fois dans trois ou quatre fois. Donc des moments très concentrés, des moments dilués, il n'y a pas de règle. Ce qui semble à peu près certain, c'est que le rythme de la formation initiale, là, par contre, n'est pas adapté. Et il est difficile d'intégrer dans un cours de formation initiale non revu, dans son rythme, quelqu'un d'une entreprise. Parce que, nous, on va avoir le cours magistral le lundi après-midi, un TD le mardi matin, le jeudi après-midi encore un autre truc, et puis le vendredi encore un bout. Donc ça, et ça sur 12 semaines. Donc ça, c'est pas envisageable. Donc ça veut dire que ça doit se retravailler, soit en concentrant, soit en diluant comme il faut sur les bons horaires et avec un rythme que l'entreprise comprend. La pédagogie, ce sont aussi les contenus, la méthodologie, les outils. Et donc, là, à nouveau, c'est clair, la pédagogie, le numérique est un outil, ça apporte des plateformes d'échange entre les stagiaires, ça permet d'avoir à disposition des ressources, et puis ça permet de temps en temps de faire de l'enseignement à distance. Donc on peut prendre, les outils numériques sont de toute façon au cœur du sujet, que l'on soit sur du 100% présentiel ou du 100% distanciel, en passant par de l'hybride. De toute façon, ils sont là, et les entreprises qui se sont lancées dans de la formation pour elles-mêmes déjà depuis très longtemps, Michelin, ERDF, etc., Crédit Agricole, on les a vus, eh bien, ils ont des plateformes d'enseignement numérique. Ensuite, finalement, si vous discutez un peu, vous discutez avec les profs qui font de la formation continue, ils sont plutôt contents en général. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont fait le pas de transformer le cours linéaire classique en de la pédagogie par projet, un peu de pédagogie inversée, plus d'échanges, etc., ils sont plutôt contents. D'abord parce que c'est assez interactif. D'autre part, ils ont des étudiants qui sont motivés, ils ont des stagiaires qui sont motivés, donc ça suscite des échanges intéressants. Ils ont du coup moins de copies à corriger qu'un amphi de 1000 personnes en fac de droit. Donc dire que les collègues ne sont pas intéressés par la formation initiale, c'est parce qu'ils ont beaucoup de travail à côté, mais ce n'est pas tout à fait vrai, en tout cas c'est pas rédhibitoire. Donc voilà sur quelques freins internes, en tout cas liés à la pédagogie. Et je vais conclure par ce que j'avais indiqué aux deux ministres, Madame Najat Vallaud-Belkacem et puis Thierry Mandon, lors de la remise du rapport. C'était un matin en fin de semaine, il fallait être optimiste, il faut toujours être optimiste. Je leur ai dit, il y a plusieurs bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que finalement, les freins liés au CPF, les angoisses liées aux listes sont en train de s'estomper. Ça commence à se régulariser. Voilà. Et de temps en temps, il y a à nouveau une petite poussée de chaleur, mais ça, c'est en train de se régulariser. Donc, c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que par rapport à votre commande de savoir comment on passe à un changement d'échelle, eh bien, la question du coût complet est déjà dans les esprits de la plupart des universités. Tout le monde nous en parle, elles y réfléchissent, elles regardent comment faire. Donc, parler de modèle économique et de coût complet dans une université n'est pas un gros mot, mais ça devient, c'est déjà depuis quelques années dans nos habitudes. Voilà. Ensuite, donc ça, c'était les bonnes nouvelles. Ensuite, il y a une très bonne nouvelle, l'aurais-je dit, c'est que il n'y a pas d'obstacle idéologique du côté des professeurs pour qu'ils acceptent de transférer leur savoir, de donner leur savoir à un étudiant avant qu'il ait son diplôme et qu'il refuse catégoriquement de transmettre le même savoir ou un savoir un tout petit peu plus avancé au même individu une fois qu'il a eu son diplôme. Il n'y a pas de raison. Vous n'avez pas un prof qui pense ça. Il va penser, j'ai une mission de service public, j'ai la formation initiale, j'ai beaucoup de choses, mais il va aussi penser, j'ai ma recherche et donc j'ai pas que ça à faire que de faire de la formation continue ou de transformer ma pédagogie. Ça, il va peut-être pouvoir vous le dire, mais je pense que jamais il vous dira, le même individu, je veux bien lui apprendre avant son diplôme et je refuse de lui apprendre après qu'il a eu son diplôme. Donc ça veut dire que à partir du moment où on a un peu plus de professeurs, qu'on a des bras pour développer la formation continue, ils peuvent très bien mixer leur activité entre de la formation initiale et de la formation continue. Bref, faire de la formation tout au long de la vie. Et alors, j'ai terminé par une... Alors, vous voyez, j'avais des bonnes nouvelles, j'avais une très bonne nouvelle, et puis j'avais une très, très bonne nouvelle à leur annoncer sur, disons, la faisabilité. Pourquoi est-ce que c'est peut-être faisable d'opérer un changement d'échelle ? Vous voyez, donc il faut le modèle économique, il faut partir de là, on dégage des moyens à coût complet. Et donc la très très bonne nouvelle, c'est que les collègues dans les universités, dans les écoles, adore, mais vraiment adore, recruter plus de collègues pour eux. Ils adorent recruter des... Si vous leur dites « je t'ouvre 3 postes », ils vont même oublier de vous demander pourquoi faire en enseignement, et puis ils vont s'apercevoir après, enfin j'exagère, ils vont s'apercevoir après que c'est pour la formation continue. Mais si, voilà, si vous leur dites « il y a un modèle avec des ressources » et si on en reste avec la dotation de l'État pour faire notre mission de service public, licence, master, eh bien, à cause du GVT et autre chose, vous allez avoir moins 1, moins 2 postes par an pendant quelques années. Et si vous leur dites, par contre, sur la formation continue qui doit se développer, eh bien, là, on a les moyens de recruter plus de monde. Je pense qu'ils seront ravis de recruter un peu plus de monde. En tout cas, c'est, en tant que président d'université, le pari que je peux faire en interne et plus globalement dans les universités. Je vous remercie.
Merci. Merci beaucoup à François pour cet exposé très, très motivant, parce que justement, les bonnes nouvelles sont au rendez-vous. Alors, je vais vous passer le micro pour quelques questions, mais je vais quand même user de mon privilège de l'avoir, le micro, pour en poser une. Finalement, on fait l'éloge de la porosité sur tout un tas de domaines, et effectivement, il faut voir la porosité comme quelque chose qu'on ne va pas subir, mais un levier pour justement aller vers le changement d'échelle. Et quand vous disiez tout à l'heure qu'en termes de pédagogie, il serait bon d'avoir des pédagogies adaptées à des publics différents, est-ce que, quand on fait ça, on n'est pas en train de rater une porosité qui, pour autant, pourrait être intéressante, c'est mixer les publics. Moi, j'ai toujours l'impression que si on mettait plus d'étudiants de FI en contact dans les mêmes salles avec des étudiants de FC, il se passerait une petite alchimie entre eux qui est une porosité intéressante aussi d'un point de vue pédagogique. Donc, comment est-ce qu'on peut tenir ces deux choses-là dans la main, la mixité des publics et à la fois les parcours dédiés?
Bon, pour une fois, je crois que j'ai une réponse à une question. Il faut vraiment considérer la formation tout au long de la vie comme un spectre de possibles. Et il y a la formation initiale, la mission de service public, et puis il y a la formation continue de service public qui est la reprise d'études, qui est la VAE, etc. Et à l'autre extrémité du spectre, il y a la formation très marchande, très concurrentielle, avec un appel d'offres auquel on répond. Et entre les deux, il y a tout un spectre de besoins. Il y a les demandeurs d'emploi, il y a des entreprises qui n'ont pas un besoin spécifique, qui ne passent pas un appel d'offres pour un besoin spécifique, mais qui veulent former de manière massive qui veulent former des étudiants, des personnels ou quelques personnels à l'évolution de leur métier, et ils vont les envoyer dans une licence professionnelle ou dans un master professionnel qui existe ou que l'on peut co-construire. Donc vous aurez à la fois de la formation continue qui va être complètement sur mesure, où là, du coup, il y a moins d'interaction avec la formation initiale, et puis de l'offre de formation continue qui est complètement mixte entre de la formation initiale et de la formation continue.
Ok, merci.
Bonjour, merci Jean-Marie Filoc, VP CFVU. Je voulais juste faire un petit témoignage qui va dans ton sens sur le recrutement d'enseignants-chercheurs ou d'enseignants sur les fonds de la formation professionnelle. Jusqu'au RCE, il existait un dispositif qui s'appelait les postes gagés. L'enseignement secondaire et la DGESCO en a fait un grand usage à un moment donné pour des titulaires, puis après l'a abandonné. Il passait des contractuels. En enseignement supérieur, je peux témoigner, j'étais 10 ans enseignant-chercheur sur poste gagé, formation continue. Parce que les collègues avaient dit, il y a trop d'heures sup. Et la formation continue dans les universités, elle s'est souvent développée, elle se développe toujours, elle est vécue comme une activité supplémentaire. Donc d'où le modèle qui s'est développé couramment. Ben, on fait ça en plus quand on a besoin d'argent frais supplémentaire ou des traites à payer. Et c'est vraiment ça, ce qu'on entend, ce qu'on a entendu. Peut-être. Et du coup, le modèle proposé d'augmenter la masse salariale, finalement, d'établissement, par une injection de fonds venant de la formation professionnelle, pourquoi pas, ça marche. Mais le jour où j'ai été promu, une petite promotion, l'établissement a dit, non, il n'y a pas question. Celui-là, son poste, il va passer en formation initiale, comme on dit, et le support gagé financé par les activités de formation continue, eh bien, on l'a ouvert pour quelqu'un qui coûte beaucoup moins cher. Parce que le modèle, quand même, il est qu'un poste, finalement, et la rentabilité, ou la capacité qu'un établissement a facturé sur le marché un coût correspondant à... Voilà. Ça, c'est quand même difficile. Et c'est un marché, comme on le dit aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, d'ailleurs. On l'a toujours dit. La formation continue, c'est un marché. Il y a de la négo. On discute les prix avec des acheteurs, souvent. Et puis, derrière, on a en tête ce que coûtent les personnels qu'on met en. Et il faudra bien convaincre l'établissement que tout ça va se faire en moyenne. Et c'est de l'abondement de la masse salariale. Après, l'argent qu'il vienne de la formation professionnelle, qu'ils viennent de la dotation État, ça devient moins visible et moins facile à repérer. Donc ça, c'est un modèle qui marche, mais il faut une vraie volonté des présidents et des équipes présidentielles pour le faire passer, ça. Pour le faire passer. Ça ne vient pas naturellement des collègues, ils ont envie de recruter, c'est certain. Ça, c'est... Mais quand on parle argent, c'est les présidents qui sont là.
C'est vrai. Non, mais très bien. J'abonde. Je plus quoi.
Alors, ça va être une question, mais je vais la mettre en perspective. Bon, c'est la suite du rapport Germinet, François. C'est l'appel à manifestation d'intérêt. Moi, j'ai été assez frappé dans tous les dossiers qu'on a vus dans les auditions. De l'importance du digital, de l'importance du numérique. Et dans ceux que je reprends de temps en temps, j'ai le sentiment que la réussite, un élément clé de la réussite du passage à l'échelle, c'est l'organisation, évidemment, dans le cadre, c'est 12 projets, mais je crois que tous les projets parlaient de la digitalisation, du numérique, c'est la capacité à porter une vraie stratégie autour du numérique, une vraie stratégie également autour de la pédagogie. Parce qu'on voit apparaître des transformations pédagogiques, des transformations liées au numérique, dans le cadre du développement de la formation et dans une perspective de formation tout au long de la vie. J'ai un peu le sentiment, et je voulais te poser la question, que c'est probablement un des points, et je crois qu'on va en parler aujourd'hui, peut-être pas de changer de logiciel, mais de rendre interopérables des logiciels qui existent, et que dans ce cadre-là, la CPU, les présidents d'université, ont un rôle majeur à jouer. Je sais que tu es par ailleurs un peu engagé sur le numérique pour la CPU. Et il ne faudrait pas que les services trouvent des réponses en propre, parce qu'on n'y arrivera pas, on ne passera pas à l'échelle, et que ça s'inscrive bien dans une dimension stratégique des établissements, schéma directeur, autour de cette transformation. Donc je voulais avoir un peu ton avis côté président.
Me savonner moi-même la planche, on pourrait trouver, disons, que dans le rapport, il y a peu de place au numérique au regard de mon engagement sur le numérique à la CPU. Par exemple, on pourrait dire, finalement, Germinet, il est président du comité numérique de la CPU, et donc il va nous mettre du numérique à toutes les pages de son rapport. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, évidemment, parce que c'est un sujet de changement important, mais il n'était pas au cœur de la chose quand même. Et rappelons-nous, ce que je dis parfois, mais je suis loin d'être le seul à le dire, que le numérique n'est pas l'alpha et l'oméga de la pédagogie. C'est, Anne l'a rappelé tout à l'heure, un outil de transformation. Maintenant, la place... ne pas faire seul dans son coin, se mettre en réseau et puis essayer d'avoir une dynamique globale plutôt que d'inventer la roue dans son coin, absolument d'accord. Et par exemple, la plateforme FUN va faire ça, est en train de faire ça, elle est en train de s'ouvrir aux certifications, elle est en train de s'ouvrir au SPOC, etc. Bon. Donc, effectivement, regarder ce qui se passe autour de soi et pas faire seul. Maintenant, la question de savoir si la transformation des esprits, le fait de sauter le pas, la question de savoir d'où ça va venir, à mon avis, va dépendre beaucoup des établissements. Je m'explique très rapidement. Dans certains établissements, le numérique, la création de SPOC, etc., va être suivi par un certain engouement et sera le prétexte qui amènera les collègues à la formation continue et au développement dont on parle depuis tout à l'heure. Donc ça viendra de là, et c'est cette transformation numérique qui va être pour eux le prétexte pour faire le pas supplémentaire. Dans d'autres établissements, à mon avis, ça sera l'inverse, c'est-à-dire ils sont déjà plutôt mûrs pour faire le pas vers la formation continue, le lien avec les entreprises, redimensionner les formations, etc., répondre à des appels d'offres, et ils verront une oucase du président de faire du numérique comme une contrainte supplémentaire. Donc je pense qu'en fonction de la maturité, en fonction de l'histoire des établissements, le numérique viendra comme élément transformant qui ira vers le but, ou bien dans un deuxième temps, lorsque déjà un premier pas vers la formation continue sera fait.
Il y a bien quelques questions qui n'osent pas prendre la parole. Ça peut aussi être des questions sur l'intervention précédente avec Rachel-Marie Pradaille-Duval et Anne Aubert. Hein, s'il y a des choses que vous avez mis en attente, c'est le moment. Voilà.
Oui, Patricia Arnaud, MIPNES, DGZIP. Juste faire une remarque. J'étais étonnée que finalement, dans les discours, il ne soit pas tellement question de la VAE. Alors François vient juste de l'évoquer, mais parce que finalement, ce qui est peut-être aussi bloquant dans nos établissements, c'est de voir que il n'y a pas suffisamment de gens qui croient à la VAE. Il y a aussi beaucoup d'enseignants-chercheurs qui sont réfractaires. Dans les jurys de VAE, il y en a qui ne savent pas trop ce qu'on attend d'eux. Donc peut-être aussi que ça doit faire partie de la formation qu'on doit donner à nos collègues, aux enseignants-chercheurs, parce qu'on a parlé beaucoup de pédagogie, mais je pense aussi que l'ouverture d'esprit sur cette VAE, ça peut être important. Et peut-être que ça, il faudrait se l'approprier aussi, ce thème-là.
Oui. Juste un mot pour appuyer, puis en attendant que le micro passe tout en haut. C'est peut-être une déformation Sergi Pontaine, de mon université, de pas avoir plus parlé de la VAE, parce que pour moi elle est évidente. C'est-à-dire, on fait de la VAE même en doctorat, on a déjà fait une, on est en train de préparer un deuxième, donc on en fait pas mal. Je vois Catherine Thibault qui est là, qui connaît tout ça par cœur. On en fait. Pour moi, c'est intégré dans l'esprit à la fois du service qui s'en occupe et puis des collègues. Mais peut-être que, un, je m'illusionne sur mon propre établissement, parce que, à force de signer des jurys de VAE, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup et peut-être pas tant que ça. Moi, dans mon imaginaire, c'est très répandu. Mais peut-être que pas assez. Et alors, si le réel, c'est que ce n'est pas assez développé, alors il faut le dire et le marteler.
Alors justement, j'en profite puisque les gens ne se battent pas pour poser des questions. La semaine dernière ou il y a 15 jours, j'ai été confrontée à des gens sur le terrain. Il y avait un directeur d'IUT qui me disait, mais moi je ne comprends pas. Alors il y a une législation que je ne maîtrise absolument pas sur la VAE. Je ne comprends pas, on m'interdit de mettre des collègues Prague dans un jury de VAE. S'ils ne sont pas enseignants-chercheurs, ils ne peuvent pas figurer dans un jury de VAE. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Bon, donc déjà, voilà, c'est bien. Parce qu'en plus, comme il y a certains Prague qui sont responsables de formation, donc c'est quand même gênant. Bon, ben, je suis contente d'apprendre que c'est une bêtise. Alors, vous voyez le genre de choses qui se passent sur le terrain. Donc, je pense qu'un minimum de formation sur ces sujets-là, ça pourrait peut-être aussi débloquer certaines situations. Mais tant mieux si à Cergy ça se passe très très bien. Je pense que c'est pas généralisé, mais il y a sans doute des établissements qui travaillent très bien là-dessus. Donc c'est possible de monter une journée de sensibilisation et d'éveil, on va dire, sur la VAE probablement.
Je vous donne la parole tout de suite. Pour rebondir sur cette question de la VAE, pour avoir vu dans d'autres établissements les procédures même de VAE, force est de constater que c'est d'une complexité absolument assez repoussante au début. Donc le changement d'échelle, il se fera aussi par des simplifications dans toutes les strates des établissements pour libérer des énergies. Et à mon avis, la VAE est un bon exemple de ça, comme quelque chose qu'on devrait commencer à vouloir simplifier de manière urgente. Alors, je repasse la parole à la salle.
Je vais essayer de répondre sur la VAE. Je ne me suis pas présenté à Alain Gonzalez, directeur du réseau Formation Continue à l'Université. Bon, c'est clairement, 4000 VAE partielles ou totales par an, c'est à la fois loin d'être insignifiant. Et en certification formation continue sur des licences professionnelles, ça peut représenter 15% des diplômes délivrés. Donc c'est pas anodin et c'est pas suffisant. Et on peut se dire collectivement c'est pas suffisant. Alors en même temps, les textes premiers étaient assez stricts, mais rappelons qu'en 2002 c'était une nouvelle voie de certification, que ça passait quand même par des jurys souverains qui attribuaient au travers de l'analyse de l'expérience et des parcours professionnels ces certifications. Donc ça a pris un peu de temps pour s'installer dans la plupart des universités, pour pas dire pratiquement toutes les universités. Je pense qu'on est à un carrefour là, mais pas que nous, hein. Tous les certificateurs font le même constat. Il faut aller plus loin, et pour aller plus loin, il faut revoir probablement les décrets qui organisent aujourd'hui la validation des acquis. C'est en cours à la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle, on y travaille, pour gagner en souplesse. Maintenant, quand on regarde les textes et l'application des textes, je pense que beaucoup d'établissements sont allés au-delà de ce que les textes nous chuchotaient, j'allais dire comme d'habitude. Voilà, donc c'est aussi cette souplesse qu'on peut construire dans nos établissements, et que de temps en temps on a une lecture très rigide des textes en rajoutant des contraintes, par exemple sur les pratiques que vous évoquez, qui ne sont absolument pas dans les décrets.
Il y avait une question dans le haut de la salle, tout là-haut, là-haut.
En attendant que ça arrive, je réponds à votre remarque sur la complexité. Moi, j'ai une théorie qui est juste personnelle, c'est qu'on est tellement intelligent en France qu'on fait des choses très compliquées.
Bonjour, France Hubersfeld, responsable du pôle reprise d'études et validation de l'expérience à l'université Pierre et Marie Curie. C'était pas là-dessus que je voulais intervenir, mais puisque vous avez évoqué la question de la VAE, moi je pense qu'on a une législation, la loi de 2002 et son décret spécifique à l'enseignement supérieur, qui est extrêmement favorable à toutes les expérimentations, et qu'on ne se donne pas forcément les moyens. Et je pense que dans les établissements où les choses sont extrêmement complexes, où la VAE c'est le parcours du combattant, où on valide au poids du dossier, c'est que l'établissement n'a pas envie de faire de la VAE. Donc il ne faut pas prendre les choses à l'envers en disant « c'est très lourd, on ne peut rien faire ». Je trouve que le décret de l'enseignement supérieur, par rapport à l'autre décret de portée générale, il est infiniment créatif et il donne la possibilité aux enseignants-chercheurs qui ont envie de développer leur créativité pédagogique de s'éclater. Ça, c'est la première chose qui me vient, et c'est vrai que dans notre université, on a, et les enseignants-chercheurs y ont largement participé, on fait tous les jours des expérimentations qui nous permettent de valider du DAE au doctorat, et d'une façon finalement où les gens, ils y passent pas 3 ans. Ça, c'était ma remarque. Ma question, c'était plutôt par rapport à ce qui s'est dit. Ça va peut-être boucler sur la VAE. C'est que moi, j'ai entendu un grand absent sur la question de la pédagogie, finalement. C'est la question, et qui relie et qui inscrit les choses dans le parcours de la formation tout au long de la vie. C'est le projet de l'individu. Parce qu'on nous a bien parlé du projet de l'entreprise, on nous parle bien du projet de l'université. Mais en même temps, même si j'aime pas tellement ce terme, l'apprenant, qu'il soit jeune, en pleine force de l'âge ou senior, c'est quoi son projet ? Et c'est là aussi où je trouve que le CPF, il est aussi un peu paradoxal, parce que c'est un projet individuel, un petit peu quand même sous liberté surveillée. Et puis, comment est-ce qu'on peut penser la réussite sans questionnement sur le projet ? On sait bien que les étudiants, ils échouent à l'université parce que depuis la troisième, la question de l'orientation, c'est surtout le projet de l'autre, l'autre, l'adulte qui sait. Et on voit bien que les gens qui s'inscrivent en reprise d'études, quand ils échouent, parce qu'eux aussi, ils échouent, c'est parce qu'on n'a pas réglé la question du projet. Et il me manque dans ce que vous... Alors, ce n'est pas la lecture, moi, que j'ai eue de votre rapport, mais quand vous en avez parlé, j'ai trouvé que c'était ça qui manquait aujourd'hui.
Alors, j'ai néanmoins débuté avec l'individualisation des parcours. J'étais là-dessus. Et donc, c'est le projet de la personne.
Est-ce que c'est l'injonction de l'enseignant ou de l'université qui a proposé des choses et finalement on n'a pas les moyens de la mettre en place? C'est pour ça aussi que l'individualisation, il faut y associer, me semble-t-il, la question du projet de la personne.
L'individu est acteur, oui, tout à fait.
Il me semble qu'il a été rappelé à plusieurs reprises qu'on parlait effectivement de contraintes de l'individu ou de choix de l'individu. Il me semble qu'on l'a spécifié à plusieurs reprises. Donc il est évident que la première étape, c'est l'écoute, effectivement, du projet.
Oui, Antoine Rosy, je suis responsable des FOAD à l'UPMC. Et je vous ai trouvé un petit peu en retrait par rapport au numérique. Moi, vous croyez véritablement qu'on peut lancer aujourd'hui, développer un projet de formation tout au long de la vie, de formation continue, le développer véritablement sans penser qu'on va le développer avec le numérique et qu'on peut le faire d'une façon hyper présentielle, traditionnelle? Moi, je trouve que ça s'adresse un peu aux trois intervenants de ce matin. OK, qu'on ne fasse pas du tout numérique, ça me semble clair, mais que... Quand on voit l'évolution du CNAM, quand on voit les appels à manifestation d'intérêt, j'ai quand même l'impression qu'on est obligé de considérer aujourd'hui que c'est un axe important du développement d'une formation. Voilà.
Oui. Y a peut-être un retour de balancier lié au fait qu'on met tellement le numérique à toutes les sauces que du coup on est obligé d'envoyer le balancier de l'autre côté. En même temps, les établissements font du numérique. On a tous des environnements numériques de travail, on a tous des plateformes Moodle, Sakai ou autres sur lesquelles on dépose des choses. Donc on a déjà des dispositifs qui sont présents et sur lesquels on peut s'appuyer, sur lesquels on s'appuie. Ce que je disais simplement, c'est que... Dans certains établissements, si on commence par dire vous passez 3 ans à développer le numérique et puis après vous ferez la formation continue, on n'y arrivera pas. Voilà, c'est pas ça. Donc pour décaler un tout petit peu le propos, on parle le numérique a réactivé et les MOOC ont réactivé la pédagogie inversée, l'échange. Il y a les plateformes d'échange avec les étudiants, etc. Et donc, avec les MOOC sont arrivées les questions de transformation, de révolution pédagogique. C'est sûr, c'est extrêmement important et il faut le développer. Et aujourd'hui, il n'y a rien de majeur qui se développera sans qu'à un moment donné, on ait pris ça en compte. Mais un prof qui fait un cours traditionnel, rien qu'avec des emails, qui est de la technologie d'il y a 15 ans, il peut transformer radicalement son rapport pédagogique aux étudiants et les échanges entre les étudiants. Donc tout ça pour dire que oui, il faut développer les MOOC, les SPOC, etc. Il faut mettre tout ça en réseau. C'est important. C'est des outils pour faire de l'hybride. Mais on a déjà beaucoup d'outils numériques qui sont en support de nos formations aujourd'hui.
Rachel Marie. Oui, moi je voulais rajouter que si on
si on ne peut pas, enfin, je suis d'accord avec François Germinet quand il dit que si on commence à se dire il faut avoir basculé au numérique pour développer la FTLV, on prend un risque de bloquer le développement majeur de la FTLV. Le numérique, ça doit transformer globalement les établissements, et pas que sur la partie formation, sur les systèmes d'information, sur la communication, sur l'organisation des échanges et des prises de décision, sur les échanges avec les acteurs et les utilisateurs de l'ensemble de ce qui est réalisé dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, bien sûr, ça doit aussi irriguer la FTLV. En revanche, cette question de l'emprise du numérique sur la pédagogie et sur l'objet de production qu'est la formation tout au long de la vie, il faut trouver une juste mesure. Les formations et les entreprises ont aussi besoin qu'on leur propose des projets innovants, de la diversité de pratiques pédagogiques, de la diversité d'interactions avec les acteurs. Il ne faut pas se limiter au tout numérique dans le cadre de la formation professionnelle continue. Il ne faut pas s'interdire qu'il n'y ait pas de numérique du tout, mais après, ça veut dire qu'il faut se réinterroger sur le tempo pédagogique qu'on met en place. Il y a un certain nombre d'expériences très réussies, très lucratives, je dirais même, qui sont en quasi tout présentiel, mais qui ont développé d'autres pratiques pédagogiques que ce que l'on a, effectivement, avec 2 heures le mardi de 16h à 18h et 3 heures le vendredi matin de 9h à midi. C'est pas top quand on est un professionnel, quel que soit son niveau d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu, mais le numérique n'est pas l'alpha et l'oméga de la FTLV, même si, bien sûr, il doit contribuer à la transformation. C'est pas tant une transformation sur ce que ça représente, c'est sur les usages qu'on va en faire, ne serait-ce que parce qu'on va s'adresser à une population qui, y compris de plus en plus jeune, peut être demandeuse d'une continuité de sa formation, autant que des gens un peu plus âgés, mais je vais me mettre dedans, qui pourraient revenir à de la formation après une interruption plus longue. Donc c'est cette question de porosité, effectivement, entre les usages de formation initiale et de la suite.
Je pense que sur cette question-là aussi, on peut se dire que pour faire du numérique l'outil dont on a besoin pour déployer la pédagogie, déployer la formation, il faut aussi libérer le numérique de certains freins. Si on veut faire en sorte qu'on se mette dans une logique de FTLV où les gens viennent tout au long de leur vie dans les universités, viennent y trouver des grains de formation qui permettent une meilleure porosité entre carrière et vie et une meilleure image de marque au final de l'université. L'université vous accompagne toute votre vie. Il faudrait peut-être aussi que dans les systèmes d'information, les gens soient toute leur vie dans le système d'information. Et quand on regarde ce que dit le cadre réglementaire des ENT, quelqu'un qui n'a plus vocation à y être doit être sorti au bout de 3 mois. C'est des cadres qui sont obsolètes et qui sont des freins à ce que les gens attendent du numérique, pas comme finalité, mais comme moyen pour avoir les vraies finalités. Je vous ai encore piqué la parole,
si je peux,
il faut la prendre.
Me permettre juste rebondir sur l'article. On a parlé de VAE tout à l'heure, mais on peut parler plus globalement de reconnaissance des apprentissages, reconnaissance des acquis, évaluation des acquis, de manière plus générique, je pense.
Et ça tombe bien, il y a un atelier là-dessus cet après-midi.
Et justement, il y a un atelier là-dessus. Il y en a un aussi sur l'individualisation, c'est comment justement on est en capacité à l'université de prendre en compte les acquis non formel, enfin pour employer un langage très européen, là, non formel et informel. Les gens, le numérique, en fait, il est présent dans la vie des individus. On parlait tout à l'heure des parcours individuels et de prendre en charge le projet de l'individu. Mais tous, on baigne dans cet environnement plus ou moins numérique à l'extérieur. Et c'est aussi, ça interroge aussi la capacité qu'a l'université et nous dans nos parcours diplômants. Parce que les jalons que cherche un individu qui revient à l'université, c'est apprendre probablement, valider un certain nombre de nouvelles connaissances et de savoirs et de compétences, mais c'est aussi quelque part avoir des marqueurs comme les diplômes, qui sont aussi pour lui importants pour l'emploi et qui sont importants aussi parfois pour les promotions, qui sont importants pour plein de choses dans la vie, qui restent des éléments importants dans la vie. Et donc comment ce numérique dans lequel baigne l'extérieur, baigne la société, l'université l'accepte, et dans nos parcours de formation, alors là ça interroge les VP formation, et puis comment dans nos modalités de validation des apprentissages, On parlait de MCC, modalité de contrôle des connaissances encore dans un certain nombre d'endroits, mais on sait bien des validations des apprentissages et comment ça devient créditable et comment ça s'accumule et comment tout, on se construit un parcours en un an, en deux ans, en dix ans, en vingt ans. Mais on nous mesure quand même, et là je me retourne vers la DGCIP, hein, en nombre de diplômés en trois ans, en nombre de diplômés en... Voilà. Et donc ça, il faudra quand même, si on veut ouvrir cet espace de formation tout au long de la vie dans l'enseignement supérieur, qu'on arrête quelque part de focaliser et de mettre en avant, y compris dans la presse, ces éléments-là. Quoi.
Oui, à ce titre, on rappelle que Bologne, c'est pas 3-5-8, c'est LMD. Voilà.
Oui, oui.
Toujours des questions qu'on va sûrement se poser cet après-midi. Je pense que il peut y avoir dans le cadre d'appel d'offres des contraintes liées aux médias, mais il faut pas rentrer nécessairement par le média qu'on utilisera pour former. Ce qui sera sûrement moins vrai dans des parcours allant vers la certification à son rythme. Par contre, je pense que un des éléments de transformation des établissements pour arriver à aller vers la formation tout au long de la vie, c'est évidemment la façon dont on va concevoir nos certifications. C'est-à-dire que si on n'a pas... Il y a un espéranto qui nous rapproche à la fois, je dirais, de ce que l'étudiant attend de sa formation, de ce que les entreprises comprennent de la formation à la sortie, de ce que les stagiaires, les adultes qui sont en emploi comprennent de leur posture, de leur position, des compétences acquises dans le cadre d'une certification à venir. C'est évidemment l'approche compétences. Et tant qu'on travaillera sur un référentiel de formation et qu'on passera tous ensemble ici un temps fou à essayer de trouver des blocs de compétences, on fonctionnera à l'envers. Il faut partir évidemment des compétences. Et le continuum de formation initial est évidemment très facile à construire puisque c'est une programmation, l'acquisition de ces compétences. On ira évidemment probablement vers des VAE plus simples, plus faciles, des prépositionnements plus naturels, à la fois du candidat sans forcément notre accompagnement tel qu'on le produit aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a aussi un travail très fort, et je veux dire, au travers des cycles des contrats, de se dire sur un certain nombre de, je pense les licences pro, mais il y en a d'autres, les masters, rentrer par la compétence et ensuite construire le continuum, c'est ouvrir l'université à la formation tout au long de la vie.
Il faut encore pour ça donner du corps à cette notion de compétence culturellement dans les équipes pédagogiques, parce que les référentiels de compétences adossés aux licences, par exemple, tout le monde prend ça comme une contrainte, personne n'y a vraiment vu l'intérêt. De mon point de vue, alors c'est un point de vue personnel, j'ai l'impression que la seule formation à l'université qui a vraiment été pris à 100% l'idée de ce qu'était une compétence, c'est le C2I.
Ah, il n'y a pas que, hein, mais en même temps... Appuyons-nous sur ce qui s'est fait dans les 4000 jurys. Il y a 40 000 VAE depuis 45 000 VAE depuis 12 ans. Ça veut dire qu'on peut considérer qu'il y a eu à peu près un peu moins de 100 000 passages en jury. Qu'on fait ?
Alors, côté formation initiale, je disais.
Mais tout ça pour moi, on parlait de la porosité. Je veux dire, on a là un matériau tout à fait intéressant pour essayer, puisqu'on travaille comme ça dans les jurys VAE et dans les accompagnements VAE, pour travailler sur les blocs de compétences qui composent la certification. Donc c'est là aussi où, je veux dire, il faut que ça maille à l'intérieur de nos établissements. Il y a plein de choses et plein de valeurs ajoutées qu'on a un petit peu du mal à transférer aux autres. Et je suis d'accord, hein, c'est...
J'ai aiguillonné un peu la salle, mais en même temps, je vous rappelle qu'il va être l'heure de passer à la suite du programme. Donc, une dernière question courte.
Peut-être juste une seconde là pour réagir. On dit souvent que la transformation pédagogique, pédagogie inversée, etc., est une révolution copernicienne par rapport à la pédagogie. La vraie révolution copernicienne, c'est-à-dire changement de référentiel, décentrement, changement du barycentre, c'est exactement ce que vient de dire Alain, c'est-à-dire commencer à construire non pas en fonction des programmes, mais en fonction des compétences attendues, et de pas chercher à redétricoter les programmes pour arriver à trouver le bloc de compétences qui va, mais de les penser en fonction des compétences qui vont s'accumuler. Et là, bon, on aime bien se faire un petit peu du mal, hein, mais je vous rappelle que dans nos établissements, on a encore parfois certains programmes de première année de licence qui sont construits parce que certains feront l'agrégation 5 ans après.
Donc une dernière toute petite question courte.
Moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport au cœur de réacteur un petit peu de tout le dispositif qui sont les enseignants-chercheurs. qu'on oublie peut-être un petit peu là, dans nos propos. Je crois qu'on ne pourra pas faire évoluer non plus comme on voudrait et changer d'échelle justement par rapport à tout ce qui est numérisation, démarche compétences, si on n'intègre pas aussi dans le référentiel des enseignants-chercheurs de la formation concernant tous ces aspects-là. Alors pourquoi pas faire évoluer finalement effectivement le fameux référentiel pour permettre aux enseignants-chercheurs, déjà les nouveaux entrants, de se former à ces nouvelles démarches. Je pense que là, on pourra parler de changement d'échelle quand nos enseignants-chercheurs seront formés à ces nouvelles modalités aussi pédagogiques.
Bien, donc, oui, alors, bon, alors Patricia, vraiment, tu nous fais ça très court.
Très court, super court, merci. Bon, moi, j'ai envie de constater encore un truc. Alors, Jean-Marie, tu vas dire que je radote. Mais quand même, après 15 ans, on n'a pas beaucoup bougé. Donc, dans cette salle, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des gens qui sont super compétents dans tout ce qui est formation continue, approche de la compétence, vue par ce bout-là. Et puis, il y a des gens qui sont enseignants-chercheurs académiques, qui sont très sensibilisés, qui ont envie que ça bouge, mais qui ne sont peut-être pas tip-top là-dessus, ou qu'ils sont, mais parce que, à cause de leur parcours personnel. Mais qui ont une autre conception de ce qu'on peut mettre derrière le mot compétence. Et le problème, c'est qu'on a encore ici la cohabitation de deux mondes vraiment différents, qui ont une représentation mentale complètement différente des choses, et qu'il faut arriver à faire croiser. Et je crois que c'est ça tout l'enjeu de la FTLV. Alors, je n'ai pas pu réagir à tout ce qui s'est dit ce matin, mais j'ai vraiment envie de réagir à plein de choses. Et je pense à quelque chose là, qu'on peut peut-être réactiver, c'est le contrat pédagogique. Parce que c'est vrai qu'exiger qu'un étudiant, pour qu'il ait réussi, il faut qu'il ait fait sa licence en 3 ans, au niveau de la pédagogie, ça n'a aucun sens. On sait très bien que nos étudiants vont évoluer différemment, qu'en fonction des enseignants qu'ils vont avoir en phase 2 ou des contextes de travail et d'apprentissage, ils vont évoluer de manière différente. Donc pourquoi ne pas établir des contrats pédagogiques ? Et dans ce contrat pédagogique, eh bien, on peut considérer que l'étudiant il peut faire sa licence en 5 ans. Si lui, il a envie d'acquérir des compétences de manière informelle aussi, par ailleurs, il a tout à fait le droit. Donc ça, je pense que si on arrivait à faire ça, pour la FTLV, ça pourrait aussi faire changer les choses. Mais je pense que là, ce qui ressort vraiment des discussions, c'est qu'il y a deux mondes. Il y a le problème de la reconnaissance aussi de toutes les tâches, parce que on est tous d'accord ici, je pense, pour penser quand même que l'hybridation, ce sera une des solutions. On n'a pas d'autres moyens. Donc pas tout numérique, ni pas du tout numérique. Moi, je suis tout à fait pour l'utilisation des transparents s'ils sont de bonne qualité. Je préfère 100 fois plus de bons transparents avec un bon prof, enfin un bon pédagogue, on va dire ça comme ça, hein, parce que les profs sont aussi chercheurs. On ne va pas rentrer là-dedans tout de suite. Mais bon, alors donc je pense que le transparent, ça peut être un outil. Vaut mieux ça qu'un très mauvais diaporama. Hein. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je pense. Après, chacun est libre et va utiliser les modalités dans lesquelles il se sent le plus à l'aise, je pense. Bon, enfin bref, on est tous d'accord, on a tous les mêmes objectifs. Ici, je pense qu'on a des objectifs partagés. Le tout, c'est de savoir comment est-ce qu'on y va tous ensemble. Voilà, excusez-moi, et je te jure, Pierre, je ne reprends plus la parole. Merci.
Non, mais ça se trouve peut-être que oui. On regarde sur la question de la FTLV.